Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du vendredi 16 août, l'épidémie du Mpox a fait près de 550 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année. Désormais, toutes les provinces sont touchées selon le ministre de la Santé. Au Tchad, au moins 54 personnes sont mortes dans des inondations dans l'extrême nord désertique du pays. Au Burkina Faso, des magistrats ont été réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurisation du territoire. Le tribunal de Bobo-Dioulasso a jugé ces réquisitions illégales.
Ça, c'est créer un mouroir et c'est en réalité les envoyer à une mort presque certaine.
Senghar Senghor, avocat et membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. La campagne de Kamala Harris annonce deux débats avec son rival républicain Donald Trump, la candidate démocrate à la présidentielle et le président Joe Biden sont apparus hier ensemble pour la première fois depuis le retrait du président américain. En sport, le basketteur Joel Embiid porté au grade de commandeur de l'ordre de la valeur au Cameroun. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie, mais d'abord le journal. L'épidémie de Mpox a fait au moins 548 morts depuis le début de l'année en République démocratique du Congo. Un premier cas d'un variant plus contagieux a d'ailleurs été signalé jeudi hors d'Afrique. Le point avec Dili Diko.
Le ministre de la Santé de la RDC, Samuel Roger Kamba, a déclaré dans un message vidéo que le pays a enregistré 15 660 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année, les 26 provinces étant touchées. Plus de 38 000 cas de cette maladie, connue auparavant sous le nom de variole du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1 456 décès selon l'Agence de la Santé de l'Union africaine, Africa CDC. Hier, l'agence suédoise de santé publique a annoncé qu'une personne vivant dans la région de Stockholm a été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus du Mpox, plus contagieux et dangereux, une première hors d'Afrique. La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de Mpox, selon Olivia Wigzell, chef intérimaire de l'Agence suédoise de la santé. Enfin, les États-Unis ont fait don de 50 000 doses du vaccin Jynneos à la RDC. Le Mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme et se transmet aussi via un contact physique étroit avec une personne infectée.
Au moins 54 personnes ont perdu la vie dans des inondations qui ont affecté la province du Tibesti, dans l'extrême nord désertique du Tchad, région touchée par des inondations depuis vendredi. Le point avec Eddie Sangou.
Les victimes et les personnes portées disparues sont en majorité des orpailleurs étrangers, selon Brahim Eji Mahamat, président d'une association locale des promotions de la paix. Elles ont péri dans des inondations qui ont eu lieu dans 6 départements de la province du Tibesti. Des milliers de boutiques et de véhicules ont été emportés par les eaux des pluies torrentielles qui se sont abattues du 9 au 14 août 2024, a déclaré hier le général Mahamat Toshi Shidi, gouverneur de la province des Tibesti. En temps normal, les précipitations atteignent rarement le 200 mm par an, mais les précipitations actuelles sont un phénomène climatique qui survient chaque 5 ou 10 ans, selon Idriss Abdallah Hassan, directeur du réseau d'observation et prévention météorologique. La zone du Borku Enedi Tibesti, à l'extrême nord du Tchad, frontalier de la Libye, est une immensité désertique aux montagnes riches en métaux précieux.
L'armée soudanaise n'est pas à la table des négociations en Suisse, mais les diplomates utilisent leur téléphone pour mener des pourparlers indirects dits de proximité. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial américain Tom Perriello. Nous travaillons au téléphone, a affirmé M. Perriello. Ces discussions visent à mettre sur pied un cessez-le-feu, élargir l'accès humanitaire et mettre en place un mécanisme de contrôle et de vérification pour garantir la mise en œuvre de tout accord. Bien que l'armée soudanaise ait refusé pour l'instant de venir ou s'asseoir à la table des discussions en Suisse, l'envoyé spécial américain considère que la réunion est un succès car elle a permis d'attirer l'attention internationale sur le Soudan. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier jusqu'à fin décembre l'autorisation de la force de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, Il réclame d'obtenir d'ici mi-novembre les détails sur la nouvelle mission africaine qui doit lui succéder. En avril 2022, le Conseil de sécurité avait approuvé le remplacement de la MISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, créée en 2007 par l'ATMIS, mission africaine de transition en Somalie, menée par l'UIA, mais avec un mandat renforcé pour lutter contre les islamistes Shabab jusqu'à fin 2024. D'ici ce retrait prévu au 31 décembre, le contingent de l'ATMIS, qui a compté jusqu'à plus de 19 000 soldats et policiers, pourra disposer d'un maximum de 12 626 hommes, précise la résolution. La campagne de Kamala Harris annonce les deux débats, disons, avec son rival républicain Donald Trump, tandis que leurs coulissiers ne se retrouvent qu'une fois. Davantage avec Alexandrine Holoyon.
Le débat sur les débats est terminé. La campagne de Donald Trump a accepté notre proposition de trois débats, a déclaré la campagne de Kamala Harris dans un communiqué. Les deux camps se sont déjà mis d'accord sur un débat le 10 septembre et un face-à-face vice-présidentiel le 1er octobre. La campagne de Trump avait fait pression pour obtenir deux autres débats présidentiels en septembre et une rencontre supplémentaire entre les vice-présidents. La campagne de Trump n'a pas répondu immédiatement à une demande de l'AFP qui souhaitait connaître sa réaction à cette déclaration. La chaîne CBS a publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X qu'elle avait proposé quatre débats vice-présidentiels potentiels en septembre et octobre à Walz, le gouverneur du Minnesota, et à Vance, un sénateur de l'Ohio. Le colistier de Trump avait auparavant déclaré à Fox News qu'il ne participerait pas à, je cite, « l'un de ces faux débats où il n'y a pas de public », fin de citation, comme la rencontre du 27 juin entre Trump et Biden qui a mis fin à la campagne de réélection du démocrate. Le débat entre Harris et Trump, qui aura lieu le 10 septembre, sera organisé par ABC News, une chaîne à laquelle l'ancien président avait déjà refusé de participer, affirmant qu'il était en conflit juridique avec ses dirigeants.
Faisant campagne ensemble pour la première fois depuis le retrait du président américain, Joe Biden et Kamala Harris étaient hier à Largo, dans le Maryland. Les deux dirigeants ont célébré une baisse historique du prix de 10 médicaments contre le diabète, les caillots sanguins ou les troubles cardiaques, obtenus après des négociations entre la Caisse fédérale d'assurance santé, des seniors et les laboratoires. Ils ont annoncé une réforme qui va permettre, dès la première année en 2026, d'économiser 1,5 milliard de dollars pour les Américains de plus de 65 ans et 6 milliards de dollars pour les contribuables, selon la Maison-Blanche. C'est un combat qu'il faut continuer, a dit Joe Biden. Kamala Harris doit dévoiler aujourd'hui les grandes lignes de son programme économique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont salué hier un début prometteur des négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. La pression monte pour un accord afin d'empêcher un embrasement régional. Le point avec Abdourahman Dia.
Les pourparlers de Doha au Qatar ont eu un début prometteur hier, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Cependant, il ajoute qu'il reste beaucoup à faire et les pourparlers doivent se poursuivre aujourd'hui. Osama Hamdan, un responsable du Hamas, a déclaré que son mouvement n'a pas participé à la réunion hier, mais est prêt à se joindre à des négociations indirectes si elles aboutissent à de nouveaux engagements de la part d'Israël. Tout accord doit aboutir à un cessez-le-feu global, à un retrait israélien complet de Gaza et au retour des personnes déplacées, a déclaré un autre haut responsable du Hamas, Osama Bedran. Hier, le ministère de la Santé du Hamas a déclaré que le nombre de morts dans la bande de Gaza a dépassé les 40 000 morts, ce qui, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est une raison de plus pour un cessez-le-feu maintenant. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy et son homologue français Stéphane Séjourn doivent aussi discuter de trêve ce vendredi avec Israël Katz, leur homologue israélien.
La Maison-Blanche a qualifié d'inacceptable les violences de colons juifs sur des civils palestiniens en Cisjordanie occupée après une attaque ayant fait un mort et un blessé grave selon l'autorité palestinienne. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe rattaché à la Maison-Blanche, a exhorté les autorités israéliennes à prendre les mesures nécessaires pour protéger toutes les communautés. Des élus américains ont demandé hier des comptes à Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, au sujet de publicités pour des drogues illégales sur les réseaux sociaux du groupe, l'accusant de contribuer à la crise des opioïdes ici aux États-Unis. Une lettre signée par une vingtaine d'élus démocrates et républicains du Congrès cite des articles récents du Wall Street Journal et des enquêtes de l'ONG Tech Transparency Project. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Michel Joseph.
La croissance du Congo-Brazzaville devrait atteindre 3,5% en 2024, soutenue par les activités pétrolières comme non pétrolières, qui devraient croître respectivement de 4,2% et 3,5%, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale. Cette reprise demeure toutefois fragile en raison de l'instabilité de la production pétrolière. L'armée nigériane affirme avoir détruit cette semaine au moins 27 sites de raffinage illicite de pétrole et saisi environ 100 000 litres de brut volés ainsi que 3 véhicules chargés de carburant raffinés illégalement sur des sites illégaux de raffinage de pétrole dans le delta du fleuve Niger. Les raids font partie des opérations en cours pour lutter contre le vol de pétrole, a déclaré le porte-parole de l'armée, Danjuma Jona Danjuma, dans un communiqué. Le Botswana veut renégocier son projet d'achat d'une participation dans le négociant en pierres précieuses belge HB Antwerp, afin de doubler sa participation sans coût supplémentaire et accroître son pouvoir de commercialisation de ses pierres. « Nous n'injecterons pas plus de capital, mais nous obtiendrons plus d'actions. Au lieu des 24%, nous négocierons pour obtenir 49,9% pour le même montant proposé en 2023 », a déclaré le ministre des Mines, Lefoko Moadji, au Parlement.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Direction le Bénin pour commencer, Seydou Zerbo est le nouvel entraîneur de la CNSS Sport.
Le technicien burkinabé Seydou Zerbo, alias Kroll, a été choisi par les premiers responsables de la CNSS Sport pour mener à bien le club de l'élite du championnat béninois. L'ancien entraîneur d'Asante Kotoko du Ghana s'est engagé pour 2 saisons. Titulaire d'une licence à CAF, l'ex-sélectionneur des étalons locaux du Burkina Faso au CHAN 2020 au Cameroun, Seydou Zerbo a entraîné plusieurs clubs burkinabés tels que l'Étoile Filante de Ouagadougou, l'ASFA Yenega, l'USFA, l'USO, le FCO.
Nanitz en Angleterre, Tottenham suspend pour un match l'Ivoiro-Malien Yves Bissouma après une vidéo polémique.
Le club de Tottenham a en effet suspendu pour une rencontre Yves Bissouma, a annoncé hier l'entraîneur Ange Postecoglou. Cette sanction a été prise après que le milieu malien Yves Bissouma, né en Côte d'Ivoire, a posté samedi une vidéo sur Snapchat dans laquelle il apparaît en train d'inhaler à l'aide d'un ballon du gaz hilarant aux effets psychoactifs. La possession de protoxyde d'azote pour un usage récréatif constitue un délit depuis 2023 au Royaume-Uni et peut conduire à 2 ans d'emprisonnement. Le joueur de 27 ans s'est excusé pour ce grave manque de discernement dans un communiqué. Mais trop tard, l'ancien joueur de Lille et de Brighton, titulaire régulier chez les Spurs, manquera le premier match de la saison de Premier League contre Leicester lundi.
Et puis poursuite ce jeudi des qualifications zonales COSAFA de la Ligue des champions féminines de la CAF à Blantyre au Malawi.
Ce soir, Gaborone United Ladies du Botswana croisera le fer avec Unyayo Desportiva de Litinga du Mozambique à 15h au stade Mpira. Immédiatement après, à 15h, un second match opposera Ascent Soccer Academy du Malawi aux Young Buffaloes de l'Eswatini, toujours au stade Mpira de Blantyre.
Et pour terminer, le basketteur Joel Embiid porté au grade de commandeur de l'Ordre de la Valeur au Cameroun.
Cette distinction exceptionnelle décernée par le président de la République célèbre le palmarès remarquable de Joel Anse Embiid dans l'histoire du basketball en général et celle camerounaise en particulier, son excellence sportive, son parcours exceptionnel, son rôle d'inspiration pour la jeunesse camerounaise et son engagement en faveur du rayonnement international du Cameroun. C'est le ministre des Sports qui a présidé mercredi la cérémonie de remise de la médaille du commandeur de l'Ordre de la Valeur à Joel Embiid, joueur de basketball de la NBA, et médaillée d'or aux récents Jeux olympiques de Paris avec l'équipe américaine de basketball.
Merci Nanit. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yakuba Ouidraougo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Burkina Faso, des magistrats dont le nombre reste à déterminer ont été réquisitionnés pour servir au front et participer aux opérations de sécurisation du territoire. Le tribunal de Bobo-Dioulasso a jugé ces réquisitions illégales. Des militants des droits de l'homme, des avocats et journalistes jugés critiques à l'égard de la junte ont déjà été réquisitionnés. D'autres ont disparu, comme Atiana Serge Oulon, directeur de publication du journal L'Événement, qui a annoncé faire une pause malgré lui, car il est sans nouvelles de son patron depuis sa disparition. Nanit Talani a contacté Sengane Senghor, avocat et membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADO, à Dakar, au Sénégal.
Il y a deux angles d'analyse possibles. Peut-être qu'on veut montrer à tous les Burkinabés, à la face du monde entier, que nous sommes des citoyens égaux. Et encourager aussi tout le reste, les autres citoyens, à accepter cet état de fait et à accepter d'aller être des rengagés pour aller lutter contre le djihadisme. L'autre angle d'analyse, c'est peut-on envoyer des civils qui n'ont pas en réalité appris à manier les armes, qui ne sont pas des militaires, à aller lutter contre des djihadistes aguerris qui sont dans le combat depuis des années. Ça, c'est créer un mouroir et c'est en réalité les envoyer à une mort presque certaine.
Le tribunal de Bobo-Dioulasso a jugé illégale la réquisition des magistrats. Quelle peut être l'importance de cette décision? Pourra-t-elle protéger les magistrats et d'autres civils contre des réquisitions forcées?
Et il est tout à fait aussi logique, légal que la justice burkinabé ait déclaré cette réquisition illégale. C'est une façon de mettre en garde l'État pour demander à l'État de ne pas utiliser la force pour envoyer ces magistrats-là au front. Et ça, c'est dangereux dans une situation de ce genre, parce qu'on risque d'envoyer tous ces citoyens, les intellectuels qui un peu critiquent, s'érigent en bouclier contre la situation actuelle des pays. On peut les envoyer au front pour les faire tuer. Parce que, disons les choses telles qu'elles, utilisons les mots, c'est en réalité cela. Cette affaire de djihadisme ne peut pas être combattue de la manière que les autorités burkinabées et même les autres pays de la sous-région utilisent. Cette affaire-là, elle est tellement sérieuse, elle a tellement pris de l'ampleur que c'est des cadres comme la CEDEAO, l'Union africaine ou même les Nations unies qui doivent se saisir de la question, y réfléchir et chercher de bonnes solutions.
Le journal L'Événement a annoncé une pause malgré lui car il est sans nouvelles de son directeur de publication, Serge Atiana Oulon, disparu depuis plusieurs jours. Quelles peuvent être les implications de tout ceci sur la liberté de la presse, mais aussi sur la liberté individuelle au Burkina Faso?
Ça menace directement la liberté de presse, parce que si les journalistes sont dans une certaine situation, dans une certaine peur, ils sont incapables de faire leur travail correctement. Et quand la presse s'effondre, il faut savoir que c'est le reste de la démocratie qui s'effondre. Déjà, on sait qu'aujourd'hui, il est difficile au Burkina de respecter certaines libertés, les libertés fondamentales, parce que ce qui s'est passé avec les magistrats, ce qui se passe avec les journalistes, ce qui se passe avec beaucoup de cercles au Burkina, c'est tout simplement une violation flagrante et manifeste des libertés fondamentales. La liberté fondamentale est menacée au Burkina, la démocratie elle est menacée au Burkina, et ça expose toute la société.
Sengane Senghor, avocat et membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, joint à Dakar, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Alors que le Gabon approche du premier anniversaire du coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, les partisans du chef militaire qui dirige la transition l'exhortent à se présenter à l'élection présidentielle d'août 2025, censé rétablir un régime civil. Les opposants au général Brice Oligui Nguema affirment qu'il complote pour s'emparer du pouvoir à long terme et transformer le Gabon en dictature. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, depuis le Cameroun, le récit avec Michel Joseph.
Le coup de la libération.
Nous, force de défense et de sécurité, au
L'armée gabonaise invite les civils à se mobiliser en masse le 30 août pour célébrer ce que les chefs militaires de ce pays d'Afrique centrale appellent la journée de la libération nationale. Le message, diffusé en boucle à la télévision nationale, rappelle que ce jour-là, l'armée gabonaise a pris le pouvoir lors d'un coup d'État sans effusion de sang pour sauver le pays d'une grave crise politique, économique et institutionnelle. Le colonel Ulrich Manfumbi est le porte-parole du gouvernement de transition. Il affirme que les chefs militaires utilisent le 30 août comme une journée annuelle de célébration pour remercier les troupes qui ont effectué le changement de direction sans tuer de civils ni détruire de biens.
La crédibilité que la population nous accorde tient du fait que ce chronogramme de la transition est respecté, est scrupuleusement respecté. Il vous souviendra que dès le 30 août, nous avons procédé à la dissolution de toutes les institutions. Et progressivement, nous avons mis en place un gouvernement de la transition, une Assemblée nationale de la transition, un Sénat de la transition, une Cour constitutionnelle de la transition et j'en passe. Il y a eu ce dialogue national qui a été tant attendu par les populations gabonaises.
Cependant, Pelagi Marie-Joselle Itzana, qui dirige le mouvement panafricain pour l'unité du peuple gabonais, a un point de vue différent. Elle affirme que le général Brice Oligui Nguema manipule les groupes d'opposition pour rester au pouvoir.
Nous voyons dans la rue des militaires et ça nous donne effectivement l'impression que nous sommes dans un régime spécial. Est-ce que c'est reluisant? Je ne pense pas qu'il manque des cadres pour penser qu'il n'y a que des PDGistes qui pourront sortir ce pays de l'ornière. Quand vous avez échoué pendant plus de 50 ans, vous ne pouvez pas être la solution.
Manfumbi, le porte-parole du gouvernement, a rétorqué qu'en un an, le général Oligui Nguema a étendu l'approvisionnement en eau et en électricité à plusieurs dizaines de villes et villages, construit des hôpitaux et des écoles, amélioré les infrastructures routières, fourni plusieurs milliers d'emplois à des jeunes chômeurs et combattu sans pitié la corruption, en particulier parmi les fonctionnaires et les politiciens du Gabon. Cette semaine, la télévision d'État gabonaise a rapporté que des dizaines de groupes de l'opposition et de la société civile demandent au général Nguema de se présenter à l'élection présidentielle prévue dans un an. Le gouvernement de transition répond que, le moment venu, le Gabon va organiser des élections libres, justes et crédibles.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La recrudescence du Mpox en RDC et dans un nombre croissant de pays d'Afrique a poussé l'OMS à déclencher mercredi son plus haut degré d'alerte en déclarant l'épidémie une urgence sanitaire mondiale. Pour un éclairage, Mohamedou Oumfa joint à Paris en France la docteure Camille Besson-Bé, médecin infectiologue et épidémiologiste spécialiste en maladies tropicales.
Ce qui se passe en ce moment, donc on a plusieurs épidémies qui se passent en parallèle dans toute l'Afrique, donc ça rend très compliqué les choses. Donc il y a une première épidémie, celle dont on parle beaucoup, qui est donc en République démocratique du Congo, dans l'Est, notamment au Kivu, où l'épidémie explose littéralement avec un grand nombre de cas et surtout avec l'apparition d'une transmission interhumaine par voie sexuelle notamment et au sein de réseaux de prostitution dans la zone. Cette épidémie-là, elle a donné naissance au clade 1B, donc un sous-type du virus qui montre l'adaptation du virus à cette transmission interhumaine. Et c'est ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle s'est répandue dans les autres pays de la région est de la RDC. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est des pays qui n'ont jamais eu de cas de Mpox et qui se retrouvent avec des cas.
Comment expliquer cette résurgence et cette propagation de la maladie?
On peut l'expliquer par plusieurs choses. En fait, avant, le monkeypox, c'est plutôt une maladie qui se transmet par transmission zoonotique, donc de l'animal vers l'humain. Et là, on est passé à une transmission interhumaines. Donc ça, ça favorise l'augmentation du nombre de cas de monkeypox. Il faut aussi parler des causes économiques et écologiques. Hein. C'est pas pour rien que cette épidémie arrive au Kivu, qui est une zone qui est sujette à une forte exploitation minière. Hein. Les zones minières induisent des dégradations environnementales, hein, des déforestations et également des déplacements de travailleurs pour des raisons économiques. Et ces déplacements de travailleurs induisent aussi de la prostitution. Et puis, le Kivu, c'est aussi une zone en guerre civile, donc qui favorise des déplacements de population, des conditions économiques très précaires et également des conditions de santé et des systèmes de soins très précarisés.
Que doivent faire les gens au niveau individuel et collectif pour combattre la propagation de la maladie?
Quand on est dans les pays à risque, il faut éviter les contacts rapprochés avec des personnes qui ont des lésions cutanées suspectes et éviter les contacts sexuels également. Si on est parmi les personnes à risque, il y a la vaccination qui est disponible dans certains pays. Mais effectivement, le plus important, c'est au niveau collectif, hein, et j'insisterai vraiment là-dessus, les maladies infectieuses émergentes et le Mpox, c'est des maladies qui ont des causes en lien avec des facteurs, je le disais, socio-économiques et des facteurs écologiques. Donc il faut que collectivement, on prenne des mesures pour renforcer les systèmes de santé des pays qui sont concernés, hein, lutter contre la pauvreté qui cause forcément des problèmes, et puis surtout lutter contre les causes écologiques de ces maladies. Hein. Donc il faut cesser les dégradations environnementales, les différentes déforestations et exploitations qui amènent à ces émergences.
Docteur Camille Besson-Bé, médecin, infectiologue et épidémiologiste spécialiste en maladies tropicales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Wisconsin est l'un des trois États du Midwest que les républicains et les démocrates considèrent comme essentiel à leur campagne présidentielle. Ken Farabo, correspondant de la VOA dans le Midwest, s'intéresse à ce qui motive les électeurs du Wisconsin. Le récit avec Lionel Gaïma.
Lorsque la VOA a rencontré Gonzalo Perez, un restaurateur du Wisconsin en 2017, il s'attendait à une forte augmentation de son activité.
C'est mon billet de loterie.
En effet, l'entreprise taïwanaise Foxconn prévoyait de construire une énorme usine de fabrication d'écrans plats, non loin de là, employant jusqu'à 13 000 travailleurs. Perez pensait qu'il pourrait venir à son restaurant, mais ses rêves et les projets de Foxconn ne se sont pas réalisés. Aujourd'hui, l'usine Foxconn dans le sud du Wisconsin emploie moins de 1 000 personnes.
La promesse n'a pas été tenue.
Au lieu d'un restaurant plein de clients, Perez doit faire face à des tables vides, à une pénurie de personnel, à une augmentation des coûts due à l'inflation.
L'économie est vraiment mauvaise pour nous.
Bob Whitkey est un représentant républicain à l'Assemblée de l'État du Wisconsin, dont la circonscription actuelle se trouve à proximité du restaurant de Perez et l'usine Foxconn.
Je pense que la vraie clé lorsque les gens vont voter est souvent de savoir comment faire face à la hausse des coûts.
Si l'économie est l'un des principaux sujets de la préoccupation des électeurs, il entend encore plus de frustration face à ce qu'il considère comme un manque de coopération bipartisane entre les législateurs.
Nous ne travaillons pas ensemble. J'entends les deux parties. Nous n'arrivons à rien.
Nick Ramos est le directeur exécutif de la campagne pour la démocratie au Wisconsin, qu'il qualifie d'organisation bipartisane dédiée à la bonne gouvernance. L'organisation a récemment participé à un effort fructueux visant à modifier les cartes de circonscription législative de l'État du Wisconsin. Les électeurs avec lesquels il s'entretient se disent préoccupés par l'avenir de la démocratie américaine.
J'espère que, quelle que soit la personne qui occupera le bureau ovale, ce sera quelqu'un qui s'engagera réellement auprès des citoyens et qui voudra essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour sauvegarder la démocratie, mais aussi pour trouver des moyens de l'améliorer.
Le Wisconsin est aussi un État divisé que n'importe quel autre État du pays, mais les démocrates et les républicains s'accordent à dire que le succès de l'élection présidentielle dans cet État en novembre dépendra de la manière dont ils parviendront à faire participer leurs électeurs. Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle.
Alors, Wisconsin, aujourd'hui, je te demande si tu es prêt à te mettre au travail.
Des récents sondages dans le Wisconsin indiquent que la candidate démocrate Kamala Harris dispose d'une courte avance sur le candidat républicain Donald Trump.
Un vote pour Trump est un vote pour sauver le Wisconsin et un vote pour sauver votre pays.
Le restaurateur Gonzalo Pérez n'a pas assisté à des événements politiques et n'a rencontré aucun des deux candidats.
Le mode de vie ne change pas, peu importe qui est élu. Je vais continuer à travailler 7 jours sur 7 avec les mêmes horaires. Je paie mes impôts régulièrement, je n'en vois pas l'intérêt.
Pérez affirme qu'une chose au-dessus de tout va déterminer la façon dont il va prendre sa décision.
Parfois, je vote pour celui qui apportera un changement.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Au micro, Yacouba Ouidraogo, Georges Léonard Sagnot à la réalisation. Je vous souhaite une excellente journée.